Je suis intimidé parce que par plusieurs choses. Par d'abord cette salle que je découvre, comme peut-être certains d'entre vous. Et c'est la première fois que j'ai le plaisir d'interroger un écrivain dans cette salle-là. Je suis intimidé par la qualité de l'auditoire. Je suis intimidé d'interroger quelqu'un que je connais depuis assez longtemps, et qu'il va falloir vous voyez. On va essayer. Quand je vous avais reçu, madame, à l'Académie de Bordeaux, Jean-Paul Avisseau, qui était très pointilleux dans bien des domaines, et y compris dans celui du langage, m'avait dit, on ne dit pas vous voyez, on dit vous soyez. Alors, vous soyons nous.
Avec plaisir, avec plaisir.
Nous sommes là pour parler de ce livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Alfred de Luz, un négociant en vin à Bordeaux, 1997-1880 ». Ce sont ces...
1797.
Évidemment. Est-ce que je peux vous poser d'abord... Je vais vous poser une question peut-être intéressante tout de suite après, mais est-ce que je peux vous poser une question un peu insignifiante? Un négociant en vin, j'ai vu les épreuves du livre, vin était toujours au singulier, et vous avez systématiquement corrigé pour que vin passe au pluriel. Est-ce qu'on on dit un négociant en vin avec un S à
Oui,
Bordeaux,
oui,
à Bordeaux.
Parce qu'il me semble que le propre du négoce bordelais, tout au moins à cette époque-là, c'était justement que les négociants avaient la possibilité de choisir entre des crus différents, entre des provenants, des appellations différentes, et donc de fournir à leurs clients ce qu'ils souhaitaient. Alors si on parlait d'un négociant en toile, peut-être que on le mettrait au singulier parce que
en grain,
exactement, ou en bois.
Ou en bois. Hein,
voilà.
Enfin,
en bois,
il y a des... mauvais exemple.
Donc, voilà.
Alors, une deuxième question. Alfred de Luz, c'est un de vos ancêtres.
Oui.
Vous m'avez dit que c'était votre cas.
Quadriaïeul. Oui.
Arrière.
Quatre générations.
Et ce livre est signé de Séverine Pacto de Luz.
Oui.
Par ailleurs, vous êtes historienne, et une historienne tout à fait sérieuse.
J'ai essayé, tout au moins.
Oui. Et dont certains livres. Je pense à l'histoire des protestants à Bordeaux, ou l'histoire des... C'est le titre.
Des protestants de Bordeaux.
Et de Bordeaux. Des protestants de Bordeaux. C'est un livre de référence. Je pense à un autre ouvrage. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, que vous êtes l'auteur d'un best-seller qui s'appelle « Les relations internationales ».
Oui, une histoire des relations internationales de 1815 à aujourd'hui, au Brexit.
Voilà. C'est-à-dire que c'est un livre qui est paru dans la collection « Que sais-je » et qui a un tel succès qu'il est régulièrement réédité et puis complété, bien
voilà,
sûr.
Voilà, François-Charles Mougel et moi, surtout François Mougel qui fait la partie contemporaine, le remettons à jour et l'avons encore remis à jour au mois de juillet dernier.
Alors, une historienne, historienne réputée, et qui s'intéresse à son quadriaïeul, je ne sais pas comment il faut dire. Est-ce qu'elle est, dans cette recherche, embarrassée par la parenté familiale, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui aide à la recherche? Par exemple, le corpus, évidemment, qui vient de la famille, a aidé à la recherche. Mais est-ce que vous avez été quelquefois embarrassé en vous disant, il y a quand même une famille de Luz, il faut que je fasse attention à ce que je raconte sur Alfred de Luz?
Alors, c'est une question qu'on pose fréquemment aux historiens du religieux. René Raymond, en particulier avait beaucoup réfléchi à cette question, et il disait « les historiens du religieux ne peuvent pas se départir de la sympathie ou de l'antipathie qu'ils éprouvent pour telle ou telle confession ». Donc effectivement, nous ne sommes pas tout à fait objectifs. Bon, en même temps, la connaissance de l'intérieur, la connaissance de l'intérieur d'une confession religieuse fait aussi qu'on peut émettre des jugements qui sont probablement, me semble-t-il, plus fondés, plus pondérés, plus mesurés, plus affinés que ceux de quelqu'un qui viendrait de l'extérieur et qui n'aurait pas toutes les clés pour comprendre cette confession.
Moi, vous avez biaisé là, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. La question ne portait pas sur la confession d'Alfred de Luz. Et est-il difficile pour une protestante de parler des protestants ? Non. Est-il difficile pour Séverine Pacteau de parler de son ancêtre, Alfred ? C'est une question qui touche à la famille et à la parenté, là.
Non. Ça n'a pas été difficile parce qu'il se trouve que, vous l'avez évoqué d'un mot, j'ai eu la chance de disposer d'un corpus, ces fameuses 1000 lettres. 1000 lettres envoyées de Bordeaux par Alfred de Luz à sa belle-fille Élise, qui habitait Morges, sur les rives du Léman. Et donc, mon propos, ça a été de découvrir à travers ces lettres comment vivait la famille, comment pensait la famille, comment se situait politiquement ou religieusement cette famille. Et donc, ma curiosité naturelle a été mise en éveil et j'ai cherché à répondre à un certain nombre de questions que les uns et les autres, nous pouvions nous poser.
Vous avez parlé de Morges, au bord du lac Léman. Avant tout, vous pourriez expliquer quel est le lien des Deluz avec la Suisse. C'est un lien extrêmement étroit et qui perdure, d'ailleurs. Je crois savoir que votre fille habite la Suisse.
Oui, ça se raconte.
Mais qu'elle est là ce soir. Alors, à quel moment commence ce lien entre cette famille qui vient de France ou qui existe déjà en Suisse ou qui se... À quel moment
c'est... Alors, le lien entre la famille de Luz et la Suisse, c'est un lien qui date des guerres de religion, qui date très précisément du moment de la révocation de l'édit de Nantes, donc l'été, l'automne 1685. La famille de Luz vivait en Charente. Elle vivait à Chalais. Et les persécutions se renforçant, les temples étant démolis, l'exercice public du culte n'étant plus possible, cette famille a décidé que au moins l'aîné des fils, Jacques de Luz, et le patronyme de Luz à ce moment-là était écrit en un seul mot, l'aîné des fils partirait à l'étranger pour essayer de conserver la foi de ses ancêtres. Donc il est parti de Chalais, il est parti, je pense, sans en avoir la preuve formelle, par l'estuaire de la Gironde, par ces petits ports qui parsèment l'estuaire. Il a rejoint un bateau anglais ou un bateau hollandais qui croisait au large, comme ça se faisait constamment. De là, il a gagné les Pays-Bas, puis il est revenu vers le sud, vers la Suisse, et il s'est fixé à Neuchâtel. Neuchâtel qui avait l'avantage d'être une ville francophone d'abord, à la différence des villes allemandes ou des villes de Prusse, par exemple, ou des villes hollandaises. Et puis... à Neuchâtel, il avait aussi la possibilité, l'espoir, un jour ou l'autre, éventuellement, de regagner la France si la conjoncture s'améliorait. Bon, ces conditions n'ont jamais été remplies. Donc, les Deluz se sont fixés à Neuchâtel pendant 5 générations. Ils y ont prospéré puisqu'ils ont fondé là-bas une fabrique d'indienne, c'est-à-dire une fabrique de toiles peintes, une des grosses fabriques de Neuchâtel puisqu'elle employait près de 200 ouvriers. Et ils ont exporté à travers toute l'Europe. Ce qui fait que, curieusement, les descendants de Jacques de Luz se promenaient, venaient aux foires d'Avignon, venaient aux foires de Francfort, allaient aux foires de Londres, si vous voulez, pour faire des achats de toiles destinées à l'impression des Indiennes. mais sans pour autant revenir à Chalais, qui était le berceau et auquel plus rien ne les rattachait.
Il y a eu un deuxième exil ou une deuxième partance au moment de la Révolution.
Oui. Alors, il faut savoir qu'à la fin du XVIIIe siècle, la Suisse, la Confédération, était dans un état économique difficile. Hein, le tourisme n'existait pas encore, les seules ressources étaient l'agriculture, un peu d'élevage et le commerce. Or, le blocus continental a fait que l'exportation des Indiennes s'est complètement effondrée. Et donc, si vous voulez, les jeunes gens n'avaient plus aucun moyen de subsistance, sauf l'expatriation pour trouver un métier à l'étranger, ou bien s'engager dans les armées, et en particulier dans la garde suisse. Et c'est comme ça qu'un des oncles d'Alfred de Luz, s'est trouvé aux Tuileries en août 1792 pour défendre Louis XVI. Il a été blessé, d'ailleurs grièvement blessé. Il a été caché, dit-on, c'est la mémoire familiale qu'il raconte, par une boulangère. Il a pu obtenir, grâce à Madame de Stahl, fille de Necre, il a pu obtenir des sauf-conduits qui lui ont permis de regagner la Suisse. Et il a ensuite continué une carrière dans l'armée suisse jusqu'à la fin de ses jours. Mais pour Alfred et pour ses frères, les choses ont été différentes. Alfred est parti faire un apprentissage à Paris chez un de ses oncles, Bernard de Mandreau, enfin dans la firme Mandreau, dans la banque Mandreau, d'abord à Paris, puis ensuite au Havre, où il y avait une maison de commerce de coton, une maison de négoce de coton. Son frère aîné, Louis, est parti pour les États-Unis et s'est fixé à New York, n'en est jamais revenu, a fait souche à New York. Et de là, une postérité qui existe encore aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Et le dernier frère, le troisième frère, s'est d'abord établi à Marseille pour essayer là aussi de commercer, mais cette fois-ci avec la Méditerranée et plutôt le Moyen-Orient. Mais il est mort de tuberculose assez rapidement. Donc, si vous voulez, cette branche-là n'a pas connu de postérité.
Alors, venons-en à Alfred. C'est le héros. Il est né en Allemagne.
Il est né à Francfort sur le Main, parce que sa mère était Sophie de Bettmann, une des nombreuses filles d'un très important banquier de la place. Il est donc né à Francfort, il a été baptisé à Francfort, dans l'église luthérienne de Francfort, et puis, après quelques mois passés au domicile grand maternel, il est revenu à Neuchâtel vivre avec ses parents, son père Charles-Henri de Luz et Sophie de Bettmann. Le destin a voulu que le couple Charles-Henri de Luz, Sophie de Bettmann divorce, ce qui a causé un scandale inouï à l'époque, bien sûr. Le couple avait 5 enfants quand même. 5 enfants, pas 10 ans de mariage. Elle était plus jeune que lui. Elle s'est laissée séduire par un officier bavarois qui passait par là. Et donc, les deux amoureux ont été priés, séparés, ont été priés de quitter Francfort. Charles-Henri a regagné avec ses fils, comme on le faisait à l'époque, il a regagné avec ses fils la Suisse. Et Sophie de Bettmann est partie s'établir à Munich, où elle vivra le reste de sa vie avec ses filles et les enfants qu'elle aura de son second mari.
Et la seconde femme s'occupe des enfants beaucoup, n'est-ce pas ?
Voilà, alors Charles-Henri de Luz n'a pas tardé à se remarier. Non pas à Neuchâtel, c'était difficile. Il s'est remarié dans le canton voisin, dans le canton de Vaud, donc à Morges et Chichan et Chigny, qui sont trois villages proches les uns des autres. Et il a épousé une de ses parentes qui s'appelait Catherine de Mandreau, qui a tenu lieu de mère à ses 3 enfants jusqu'à ce qu'à 15 ans, on les envoie poursuivre leur formation en France.
Alors, vous dites que Alfred est passé par le Havre, il est même allé lui aussi aux États-Unis.
Oui, oui.
Et comment arrive-t-il à Bordeaux ? Par quel hasard arrive-t-il à Bordeaux? Pourquoi son père voudrait en faire un banquier c'est ça. Et il va arriver à Bordeaux et fonder une maison de vin.
Oui, oui. Alors, il est venu à Bordeaux sur les conseils et même à la demande de son oncle maternel, le conseiller Simon Maurice de Bettmann, qui voulait relancer la maison Bettmann, qui avait été une des grandes maisons de négoce à Bordeaux à la fin de l'Ancien Régime. La maison Bettmann ayant été ruinée parce qu'elle avait investi dans une maison de commerce avec les Antilles et au moment de la révolte des esclaves à Saint-Domingue, toutes ces maisons de commerce avaient perdu les fonds qu'elles avaient engagés. Donc son oncle Simon Maurice lui a dit, il faut remonter la maison Bettmann à Bordeaux. Il y avait un jeune Bettmann qui s'appelait Édouard de Bettmann, peu ardent au travail, pas, je crois, non plus très doué pour les affaires, pas spécialement intelligent, semble-t-il. Et donc, très vite, la mésentente s'installe. Hein, la mésentente s'installe entre les deux. Et Alfred de Luz quitte Édouard de Bettmann pour s'installer avec une autre personne qui s'appelait Émile Dumas, qui avait été formé à la banque Bettmann à Francfort et que le conseiller Simon Maurice envoyait à Bordeaux. Et les deux jeunes gens se lancent, on est en 1825-26, ils se lancent donc à nouveau dans les affaires, et spécialement le négoce des vins, parce qu'Alfred de Luz a repéré qu'il y avait la possibilité dans ce commerce-là, de faire des profits importants et rapidement.
Il y a dans votre livre, justement, une hésitation entre deux visions d'historiens différents concernant l'état du négoce à Bordeaux dans les années 1820 ou 1825, au moment où il se lance cette aventure. Certains, ou en tout cas un historien, dit le port de Bordeaux, le commerce était en plein déclin, mm-hmm. à cause notamment du blocus. Oui. Et d'autres disent qu'au contraire, c'était pas si navrant que ça.
Alors, la version classique, celle qu'on m'a enseignée à l'université, la version classique consiste en effet à dire que le port de Bordeaux, qui était le premier port du royaume à la fin de l'Ancien Régime, à cause des profits engendrés par la traite et de l'activité engendrée par la traite, ce port ne s'est jamais remis. De la Révolution et des catastrophes qui ont suivi. Mais des travaux plus récents, et je pense à ceux d'un jeune collègue qui s'appelle Bruno Marneau, des travaux plus récents ont montré qu'en réalité, le trafic du port de Bordeaux s'est recentré. S'est recentré, c'est-à-dire qu'il s'est recentré sur, précisément, le commerce du vin, le commerce des bois, et un peu plus tard, à partir des années 1845-50, sur le commerce des denrées coloniales, mais venant d'Afrique de l'Ouest, les arachides en particulier, ce qui entraînera l'implantation d'un certain nombre de raffineries dans le nord de Bordeaux, en particulier dans le quartier de Bacalan. Donc, si vous voulez, Alfred et Émile Dumas tiennent compte de ces opportunités nouvelles, et ils achètent avec discernement, et ils arrivent très vite à accumuler des profits non négligeables.
Le succès arrive très vite, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'Alfred de Luz est hanté par la peur d'avoir des dettes, par la peur que l'affaire capote ou en tout cas rencontre des difficultés. On a l'impression que c'est une obsession chez lui.
Alors, il a connu ce qu'il appelle des malheurs commerciaux. Hein, il a connu des malheurs commerciaux en 1835-36. La maison de Luz et Dumas doit être liquidée parce que les dettes étaient trop importantes et que les deux associés n'arrivaient pas à faire face. Alors ces dettes, selon la mémoire familiale, mon père racontait ça, et j'ai vu des lettres de mon père le disant à d'autres membres de la famille, ces dettes sont dues à une erreur de traitement du stock de vin. Il aurait ajouté un produit non autorisé qui aurait totalement, totalement gâché ce stock, et donc tout a dû être jeté, si vous voulez. Tout a dû être jeté. Il a fallu, les deux associés se sont séparés. Émile Dumas a fondé d'ailleurs une maison de son côté, et il a fallu recommencer à zéro. Et cet endettement, Alfred de Luz n'a pas pu le combler jusqu'à ce qu'il ait, en 1862, perçu l'héritage de sa mère, Sophie de Bettmann, qui avait d'ailleurs pris grand soin de le déshériter, ainsi que ses frères, en disant que le commerce était une occupation scabreuse et inutile.
Alors, il y a aussi des chais qui brûlent.
Enfin, oui, oui, ça, mais à Bordeaux, c'était oui. Constant,
mais
deux fois.
D'où vient il va devenir en effet un notable bordelais, il va devenir un des négociants les plus importants de la place. Quels sont ses mérites personnels? Quelles sont ses qualités qui n'auraient pas existé chez d'autres et qui expliquent ce succès de la maison?
Alors, d'abord, il est très travailleur. Hein, il est très travailleur. Il écrit à plusieurs reprises « J'ai travaillé comme un forçat » et il dit de ses fils « Je les fais travailler comme des nègres ». Hein, ce qu'on n'oserait plus écrire, bien sûr, ce qu'on n'oserait plus écrire aujourd'hui. Il travaille sans arrêt à 78 ans, très peu de temps avant sa mort. Lorsqu'il livre l'emploi du temps d'une de ses journées, on voit bien hein, que le travail occupe encore une place importante. Et puis, il a probablement une sorte de génie, de perspicacité pour les affaires qui lui fait repérer, comme d'ailleurs à la même époque le jeune Herman Cruz, hein, qui était arrivé à Bordeaux en 1815, ils sont quasiment contemporains, qui lui fait repérer les bonnes affaires. Et Alfred de Luz est un de ceux qui s'est acheté en 1847 l'intégralité de la récolte de Ducru-Beaucaillou et qui la revend plusieurs années, bien sûr, avec un profit substantiel. Alors, ce n'est pas le seul exemple, si vous voulez, mais il avait ce sens des affaires.
Ce sens des affaires, cette perspicacité, comme vous dites, peut parfois même ressembler à... Alors, vous appelez ça du pragmatisme, c'est presque du cynisme. Il n'est pas du tout content de la Commune à Paris, n'est-ce pas ? C'est épouvantable. Mais les caves sont pillées.
Voilà, voilà.
Donc il y a du vin à vendre.
Alors, sur le plan politique, Alfred de Luz est un conservateur. Hein. Il a été un grand partisan du Second Empire. Il est très content en 1852. Malheureusement, il n'a pas encore commencé à écrire à sa belle-fille à ce moment-là. Il est tout à fait content du discours de Napoléon III dans lequel l'empereur dit « l'Empire, c'est la paix », bien sûr. Il est très content en 1859 quand Napoléon III et l'impératrice Eugénie reviennent pour inaugurer le
ici,
chemin de fer.
À Bordeaux.
Oui, oui, le chemin de fer menant à Arcachon et la station d'Arcachon. Déjà la guerre de 1870 le met dans une position inconfortable, hein, puisque ce sont quand même ses parents allemands, hein, ses parents allemands qui sont concernés. Et donc toute la clientèle allemande disparaît. Or, il avait mis grand soin à rechercher cette clientèle. Il avait réussi à faire contacter Bismarck et donc la cour de Prusse. Il avait réussi à faire contacter le grand-duc de Hesse. Et donc, il avait également cette clientèle-là. Tout ça lui échappe, mais il préfère malgré tout, bien sûr, le calme politique. Et lorsque les troubles interviennent à Paris, lorsque la Commune se déclenche, il est extrêmement inquiet, extrêmement choqué même. Ça donne lieu alors à un certain nombre de lettres où il explique à ses enfants en Suisse qu'il considère mal informés. Il trouve que le journal de Genève ou que la Gazette de Lausanne ne remplissent pas bien leur mission d'information. il explique à ses enfants que les Prussiens ne savent pas respecter les lois de la guerre, que ce sont des barbares, et que par conséquent, on ne pourra jamais obtenir avec eux un traité de paix, entamer des négociations et obtenir un traité de paix qui soit respectueux quand même des intérêts en présence. La Commune, alors, c'est bien sûr encore pire, puisque Paris est mis à feu et à sang, qu'il y a des massacres, que les Versaillais et les communards s'affrontent à tous les coins de rue, que les autorités ecclésiastiques sont mises en difficulté. Mais, comme il a de l'humour, il constate que les communards avaient soif, hein, et que donc les caves parisiennes ont été vidées et que ça a contribué à entretenir la bonne santé des affaires pendant l'année 1871-72. Et donc, il dit d'ailleurs avec bonheur que ça va lui permettre de participer convenablement à la fameuse campagne du don national où tous les grands propriétaires, et à Bordeaux bien sûr, à plus forte raison tous les négociants, tous les grandes maisons de négoce ont été contactées pour essayer de couvrir une partie des besoins de la reconstruction de la jeune République.
C'est une personnalité tout à fait intéressante et avec, en effet, ces contradictions, ou en tout cas ces contradictions intimes. Par exemple, là, évidemment, il est né en Allemagne, mais il est farouchement anti-prussien et il ne veut pas vendre... sa clientèle est allemande, en partie, mais il ne veut plus vendre... Ça n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs, dans les guerres qui viendront, n'est-ce pas, voilà. Les guerres d'après. Non. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il ne veut plus vendre... et recommande aux enfants de ne pas faire de commerce avec...
Absolument.
Parlons des enfants. Parce que
les cinq fils.
Il a cinq fils. Il s'en occupe beaucoup. Et il... Quel est le rythme de cette correspondance ? Ils s'écrivent énormément.
Au minimum toutes les semaines, quelquefois davantage, sauf justement pendant la période de troubles politiques où les courriers sont plus difficiles. Et puis, il n'écrit pas non plus lorsque ses enfants viennent de Suisse pour séjourner en France. Ah bon. Et que ce soit alors, dans la propriété de Rivière, hein, dans le domaine de Rivière qui est au centre de Bordeaux, ou qu'ils viennent dans les Arcachon, hein, Arcachon ou Arroyan, ou qu'ils se retrouvent dans des villes de cure. Hein, dans des villes de cure, il fallait soigner toute la famille. On allait à Vichy, on allait à Évian, on allait à Lötsch, en Suisse, qui est une ville dont les eaux chaudes ont des vertus thérapeutiques remarquables, etc.
Alors, il y a plusieurs éléments là pour la suite de la conversation. Il faut que nous parlions de Rivière, éventuellement d'Arcachon. Il faut que nous parlions de ses préoccupations en matière de santé, pour lui-même et pour ses enfants. Mais on en est au fils. Alors, il s'occupe beaucoup d'eux. D'abord, il faut les marier. Oui. Donc, il s'intéresse de près à cette question-là. Et puis, alors, il y en a un, William, c'est l'aîné, je crois. Il n'est pas très content, ce fils-là, n'est-ce pas ? Il aime beaucoup sa belle-fille.
Oui, oui, oui.
Les lettres, ma Élise, chère fille, Élise, etc., ouais. Les lettres à Élise, c'est comme, comme au piano. Les lettres à Élise sont nombreuses et extrêmement affectueuses, mais il est souvent très sévère pour William, qui vit en Suisse. Et sévère, et même parfois assez sarcastique, à un moment, le couple Élise-William est à Paris. Il leur écrit ce qu'ils doivent faire dans la journée, heure par heure. Et alors, il dit que William ne reste pas à se contempler dans la glace jusqu'à 11 heures. Il faut aller déjeuner à la fourchette. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Alors, un déjeuner rapide. Un déjeuner rapide, de manière à ne pas lambiner. Il emploie le terme aussi dans cette lettre-là. De manière à ne pas lambiner... et donc de disposer de tout son temps pour faire les emplettes nécessaires, parce que l'enjeu était important. Il s'agissait de transformer Élise, qui était une jeune Suissesse issue d'un petit village quand même, hein, des rives du Léman, et qui avait un vestiaire adapté au climat helvétique. Et il s'agissait de la transformer en citadine, élégante et susceptible de faire une bonne impression pour les familles Loton, les familles Guettier, les familles Johnston, qu'elle allait devoir rencontrer, auxquelles elle allait devoir être présentée à Bordeaux. Donc le passage à Paris comprend deux temps. D'une part, une séance chez un dentiste pour rectifier le sourire de la jeune femme. Et ce dentiste est quelqu'un d'amusant parce que ou d'intéressant, parce que c'est un Américain, un citoyen américain installé à Paris, qui était le dentiste du tout Paris. Et c'est celui qui, en 1870, au moment de la Commune, a caché l'impératrice Eugénie chez lui et a permis ensuite à l'impératrice Eugénie de gagner en toute sécurité la Grande-Bretagne. Donc, séance chez le docteur Evans, qu'Alfred de Luz d'ailleurs paie. Hein, et puis ensuite, séance chez les couturiers, chez les tailleurs, de manière à arriver à Bordeaux avec non seulement des ensembles, mais ce qui était la mode des châles en cachemire, hein, c'était la grande mode, des châles en cachemire, des robes en soie, de manière à ce que la jeune femme soit tout à fait présentable dans les soirées et dans les grands dîners de rivière. Ce fut le cas. Hein, ce fut le cas. On dit que les familles Johnston, Guettier et Loton l'ont accueilli à bras ouverts.
Mais est-ce qu'il n'est pas un peu quand même encombrant pour ses enfants et surtout pour ce couple-là, n'est-ce pas ? William, d'abord, qu'est-ce qu'il lui reproche à William ?
Il ne le comprend pas. Il ne comprend pas comment on ne peut pas, on peut ne pas s'astreindre à travailler, à faire ses comptes régulièrement, à essayer de vendre du vin, à élever éventuellement des chevaux, à tirer quelque chose des terres de Chigny. Ils ne se comprennent pas. Hein. Ils ne se comprennent pas. Aujourd'hui, on les enverrait chez des psychologues et des psychanalystes ou des conseillers conjugaux pour essayer d'arranger ça.
Et alors, d'abord, il prend en main... Il est moins encombrant pour ses autres fils.
Oui, oui.
Mais là, il prend en main et les finances du couple. Il me semble que ça s'appelle un couple sous surveillance. Oui, oui. Le chapitre qui concerne ça, un couple sous surveillance. Il prend en main les finances. Il s'occupe de décider quelle maison ils doivent acheter ou ne pas acheter, etc. Il est un peu pesant, non ?
Oui, oui, il est carrément envahissant. Il veut qu'il soit convenablement logé, parce qu'un Deluz en Suisse doit être convenablement logé. Mais il dit, il ne s'agit pas d'acheter un château, il s'agit d'acheter une villa à la Suisse. Une villa à la Suisse, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à un chalet, qui est l'allure d'une maison de campagne. C'est le cas d'ailleurs de la propriété de nos cousins de Morges à l'heure actuelle, hein, puisque William et Élise ont habité là, cette propriété qui s'appelle La Motte.
Il y a une photo.
Oui, oui, il y a une photo, et il envoie des croquis. Hein, il envoie des croquis pour aménager la maison en conséquence. Il veut aussi que William essaie d'avoir quelques ressources là-bas. Et donc, il engage vivement à revendre un peu de vin de Luz qui lui est expédié depuis Bordeaux. Mais il ne faut pas empiéter non plus sur la clientèle qui est affectée aux agents de la maison de Luz qui sont en fonction à Genève ou à Lausanne. Donc ça n'a pas été très probant. Il lui conseille même à un moment, ça c'est après la crise du phylloxéra et quand les vignes suisses sont également atteintes, il lui conseille d'élever des moutons en disant « on pourra filer la laine ». Hein, la vendre, on pourra manger la viande, tanner la peau, donc on en récoltera quelques profits.
Alors, il aime beaucoup sa belle-fille Élise, bon, ça il l'adore, mais je me demande s'il n'est pas un peu misogyne, parce qu'il a une façon de parler des femmes, et alors, par exemple, il épouse, lui, Alfred, il épouse une Johnston, Georgina.
Oui, oui.
Alors, Vous dites son portrait plein de charme, etc. Bon, elle est délicieuse. Vous écrivez ça. Puis on tourne la page et on trouve un extrait de lettre de lui, probablement postérieur à la mort de Georgina. Oui. Ma bonne Georgina n'était pas vraiment belle ni réellement intelligente, mais elle m'a donné une famille.
Voilà, mais j'ai une belle famille.
Oui. Mais j'ai une belle famille.
J'ai une belle famille. Oui, oui, c'était tout à fait le genre d'attitude qu'il pouvait avoir. Alors, il est injuste avec Georgina parce qu'elle était plutôt jolie, hein, plutôt jolie, certainement une excellente maîtresse de maison. Elle devait recevoir à la perfection, mais et son principal mérite, c'est de lui avoir donné ses cinq fils sur lesquels il fonde tous ses espoirs. Et ça sera la même chose pour je dirais, ses petits-enfants. Hein, ses petits-enfants. Alfred de Luz est un... Autant il a été un père un peu distant, parfois un peu indifférent pour ses fils, autant il est extrêmement attendri par ses petits-enfants, en particulier les petits-enfants suisses, hein, les enfants de William, parce que ce sont les descendants de la branche aînée. Et donc le fils, au moins celui qui survivra, le fils de William qui survivra, sera prénommé comme l'ancêtre, hein, l'ancêtre des époques du refuge, il sera prénommé Jean-Jacques. Hein, et c'est lui qui est amené à incarner toute cette filiation et toute cette postérité.
Alors, il conseille à son fils William de ne pas construire un château. Mais lui, il le fait.
Oui.
Alors, lui, il le fait. Ça. Donc, ses affaires ont été visiblement si prospères qu'il fait construire, vous avez prononcé ce nom, Rivière, et, qui n'existe plus, malheureusement. Non. Mais le parc existe. Et alors... est-ce que il y a un flou là? Est-ce que c'est parce que vous racontez qu'ils achètent des terres au Bouscat?
Oui.
Et en même temps, Rivière, c'est à Bordeaux, non?
Ça dépasse. Oui, voilà. Les terres de Rivière dépassaient le boulevard, c'est Pierre Ier, boulevard Pierre Ier actuel, s'étendait sur donc la commune, hein, la commune du Bouscat d'aujourd'hui. Et c'était un domaine qui a été composé donc d'acquisitions successives. Et à partir de 1855, Alfred de Luz entreprend de le remodeler à son goût. Il s'assure les services d'un des architectes connus de Bordeaux à l'époque, un des architectes à la mode, qui était Gustave Allot. Et je donne en illustration le projet que Gustave Allot a fait pour Rivière. Alors Rivière, ça ressemble à un manoir d'Écosse. Hein, il y a des tours, il y a des murailles crénelées, il y a des petites portes. Hein, donc, si vous voulez, ça a une allure résolument insolite, mais Alfred de Luz est persuadé que ses clients étrangers en garderont un souvenir ébloui et que ça lui donne une notoriété importante. Alors, il y avait à Rivière de grands dîners. Hein, de grands dîners de gala pour les clients importants. Naturellement, les fils et les belles-filles étaient priés de venir pour ces grands dîners. Le menu comportait, ben, comme à l'époque, hein, au minimum une dizaine de plats et autant de vins. Allemands, d'ailleurs, hein, des vins du Rhin et les grands crus du Médoc et parfois quelques-uns des Graves. Et après le dîner, ben, les jeunes femmes se mettaient au piano, l'une se mettait au piano, l'autre chantait. Et donc, il y avait une soirée tout à fait animée et appréciée. Et puis, il y avait aussi, c'était là, l'usage à Bordeaux, il y avait aussi alors une série de fêtes publiques et privées juste avant le carême, entre le 10 janvier et le carême. Alors, ces fêtes, c'était des bals. Et donc, il y avait bal à Rivière, où il y avait bal à la préfecture, il y avait bal chez le maire. Alfred de Luz y allait en grand uniforme de consul de Hesse. Et les fils de Luz, en particulier Charles de Luz, celui qui va hériter ensuite de Rivière, Charles de Luz adorait danser. Il allait dans tous les bals. Et son père disait, mais le lendemain, il ne fait rien au bureau. Hein?
Il écrit à propos de Rivière, Alfred de Luz, il n'y a rien de plus pittoresque à Bordeaux, donc le côté château écossais, il n'y a rien de plus pittoresque à Bordeaux et aux environs. Cela fera des souvenirs aux étrangers. Oui. J'aime beaucoup le « cela fera des souvenirs ». Alors, il y a... d'ailleurs, il a un extraordinaire humour. Et il écrit très bien. Enfin, on écrivait très bien à cette époque. Il écrit très bien, il y a beaucoup d'humour. Il est assez féroce par moment. Par exemple, peut-être que c'est une lettre à Élise, justement. Il a assisté à un mariage et... il dit, elle était mal fagotée, assez laide, mais elle a une dot de, je ne sais plus combien. Enfin, alors, quel est celui qui épouse une charentaise?
Ah ben, c'est Alfred II.
C'est Alfred II.
Oui, second, mon arrière-grand-père.
Voilà, arrière-grand-père. Et alors, il épouse une charentaise, et alors il décrit à ses enfants qu'elle est, elle, au contraire, absolument ravissante, pleine de charme, élégante, etc., et que c'est une bonne acquisition. Ouais. C'est une bonne acquisition.
Elle avait, écrit-il, une jolie fortune.
Oui, oui.
Elle avait une jolie fortune, elle savait broder, elle chantait à ravir.
Elle jouait au whist.
Elle jouait au whist, donc elle était pleine. Oui. Elle était pleine, effectivement
de qualité. Oui. Est-ce qu'on peut parler vous aviez mis tout de suite la conversation là-dessus, sur la religion réformée, dont vous êtes une spécialiste. C'est un drôle de paroissien, n'est-ce pas ? C'est un drôle de protestant. C'est-à-dire qu'il est à fond, oui, pas spécialement pratiquant. Comment est-ce qu'on...
Non, alors, d'une part, c'est vrai qu'il n'est pas pratiquant, même si dans le protestantisme, la pratique n'est pas... la pratique au temple n'est pas un des impératifs premiers. Il lit, il le dit lorsqu'il détaille son emploi du temps. Il lit tous les matins, à peine levé, à 6 heures du matin, il lit les Saintes Écritures, hein, auxquelles il essaie de se conformer autant que faire se peut. Mais il ne va pas au temple tous les dimanches. Il y va pour les grandes fêtes chrétiennes. Et il y va également... Il n'a jamais assisté au mariage de ses fils.
Oui, ça, c'est extravagant.
Jamais. Aucun. William s'est marié en Suisse, il n'y est pas allé. Alfred II s'est marié à Montendre, il n'est pas allé à Montendre. Francis s'est marié à Paris, il n'est pas allé à Paris. Et les deux autres se sont mariés en Suisse, les deux derniers. Il n'y est pas allé non plus. Il assiste aux premières communions de ses petits-enfants. Alors là, il y va parce qu'il pense que c'est effectivement l'insertion dans la famille et un gage de la perpétuation des idées réformées, de la pratique dans la famille. Il a aussi, je dirais, des opinions en matière de doctrine. Hein, le protestantisme français au XIXe siècle, lorsqu'il a retrouvé la liberté de culte, s'est partagé entre deux grandes tendances. Une tendance classique qui s'appuie sur l'interprétation stricte des textes bibliques, qu'on appelle la tendance évangélique, et puis une tendance libérale, hein, libérale beaucoup plus... loin des textes, mais qui s'attache à l'esprit du texte beaucoup plus qu'à la lettre du texte. Tendance qui était représentée en Gironde par quelqu'un qui va faire une carrière politique importante sous la Troisième République et qui est Jules Stegg. Jules Stegg était venu prêcher au Temple des Chartrons, avait prononcé une confession de foi issue de sa propre réflexion, et il en avait été, par décision du Conseil presbytéral, il en avait été exclu à tout jamais. Alors, évidemment, Alfred de Luz a cette attitude, mais en même temps, il se dit aussi qu'il est peut-être utile de se présenter au Conseil presbytéral pour que l'Église reste sur des rails bien définis. Et donc, il accepte, je crois que c'est en 1871, c'est à peu près au moment de la mort de son fils dans la guerre franco-prussienne,
hyper-raffine.
Il accepte de...
Il y en a un qui est blessé et oui, un autre qui meurt.
Qui meurt, voilà. Il accepte de se présenter aux élections. Il est battu. Hein. Il est battu. Il dit, mes amis ont voulu me mettre à cette place-là. Je n'ai pas réussi. Ça n'a pas d'importance. De toute manière, je patronne plus de 70 œuvres protestantes. Hein, et donc, je remplis largement mes obligations. Alors, œuvres protestantes de Bordeaux et d'ailleurs, hein, de toute la France.
Alors, il patronne des œuvres protestantes, mais il est protestant. C'est-à-dire, quand le cardinal Donné lui demande de l'argent pour construire l'église du Sacré-Cœur...
Oui.
Non.
Il dit au cardinal Donné, je patronne l'école protestante de garçons qui est à côté. Je n'ai pas de raison de patronner la construction de l'église du Sacré-Cœur. Ceci dit, et il a peut-être des remords, c'est une question que je me suis posée. Il n'a pas participé, pas plus qu'Hermann Cruz d'ailleurs. Ça, c'est une question de génération. Ils sont trop jeunes. Il n'a pas participé au financement du Temple des Chartrons, qui a été inauguré en 1835. Il n'a pas participé non plus en 1848 à la création de l'asile des vieillards protestants, qui est une création Johnston et Gaétier. Donc là, c'est sa femme, Georgina, la famille de sa femme, qui était impliquée. Il n'a pas participé non plus à la création en 1827, et à la mise en service du cimetière protestant de la rue judaïque. Mmh. Et d'ailleurs, en 1880, lorsqu'Alfred de Luz meurt, il est enterré dans ce qu'on appelle à Bordeaux le cimetière des étrangers, ce cimetière qui était Courjournu-Aubert et qui avait été ouvert avant la Révolution, dans les années 1775, pour justement accueillir les étrangers de confession réformée qui mouraient à Bordeaux. Alors ce cimetière, il a fonctionné jusqu'aux années 1880, où il a été désaffecté par les autorités municipales, et un certain nombre des monuments funéraires les plus spectaculaires, les plus réussis d'ailleurs esthétiquement, architecturalement, sont visibles à l'heure actuelle rue judaïque. Oui.
Alors, il lit peut-être les évangiles, toutes les écritures, tous les matins, mais je crois que les pasteurs, ils n'en raffolent pas. Alors, il y en a un qui est dépourvu de toute conscience raisonnable, et puis il y en a un autre qui est nommé à Orléans,
oui,
et il écrit « Il est allé endormir les Orléanais
». Oui, non, il n'a pas une grande considération, effectivement, pour les ministres du culte. Il les voit un peu, ce qui était quand même le cas à l'époque, hein, il les voit un peu comme des fonctionnaires du culte, ce que voulaient encore les dispositions du Concordat et ce qui restera en vigueur jusqu'aux lois de 1905, jusqu'aux lois de séparation des Églises et de l'État. Et c'est un peu aussi leur situation en Suisse. Hein, voilà, donc il a cette idée-là.
Vous avez parlé de ses opinions en matière politique. Vis-à-vis de la République, il change visiblement d'avis, n'est-ce pas ? Alors, il est contre tous les extrémismes. Oui. Il n'aime pas du tout les orléanistes.
Non.
Il n'a pas du tout envie de voir arriver Henri V. Il ne veut pas du catholicisme ultramontain. Ça le révulse. Il aime assez l'Empire, Napoléon. III, qui en même temps ne lui achète pas de vin, ça
non,
c'est, quand même, c'est quand même un peu regrettable. Et alors il est à un certain moment, donc parlez-nous de son évolution à propos, enfin ce qui concerne son sentiment républicain, et il prend position pour une monarchie constitutionnelle.
Oui, alors il n'aime pas du tout le comte de Chambord et les ultramontains. parce qu'il ne veut pas d'un retour de l'influence de la papauté. Oui. Il ne veut pas d'un retour de l'influence de la papauté sur la France, hein, avec les inconvénients que ça pourrait avoir à l'égard du protestantisme. Il redoute l'influence des congrégations. Il redoute les conséquences de la loi Falloux et les facilités qui sont données à l'ouverture des écoles confessionnelles. Les petits de Luz, les fils de Luz, seront élevés, ont été élevés dans les lycées de la République, où s'ils étaient trop peu ardents au travail, ils ont été élevés par des précepteurs à domicile. Le retour de l'ultramontanisme, il n'en veut pas. Alors, une monarchie constitutionnelle, oui, c'est une bonne formule, parce qu'il sait que le vote, si vous voulez, dans les campagnes, hein, les élections dans les campagnes pourront aller dans ce sens. Il n'y aura pas de grand désordre dans le pays. Et ça lui paraît être, au fond, la voie de la raison.
Est-ce que dans ce travail que vous avez effectué, dont je voudrais dire d'ailleurs à quel point je le trouve remarquable. Je vous l'ai dit, je le redis, je le trouve remarquable. Et c'est un travail d'historien, naturellement, d'historienne, mais ça se lit comme un roman. C'est un peu c'est les Buddenbrook. C'est l'histoire d'une... voilà. Thomas Mann a eu le prix Nobel. vous l'aurez peut-être. C'est un peu moins gros que les Buddenbrook. Mais c'est vraiment une remarquable histoire familiale. Est-ce que dans... justement, votre relation avec ce personnage, quelle image conservez-vous de lui? Vous le trouvez intelligent? Vous trouvez que ses lettres sont pleines d'esprit, pleines d'humour? Est-ce qu'il est attachant vraiment?
Oui, il est intelligent, assurément, perspicace, attachant, parce qu'il est capable de remettre en cause ou bien les idées communes, hein, les idées du moment. Il est capable aussi de remettre en cause ce que son éducation ou les idées que sont les principes que son éducation lui a apporté. Il est capable également de conseiller, si vous voulez, à sa descendance d'avoir des positions qui soient réalistes compte tenu de la conjoncture. Je pense à ce qu'il dit, par exemple, à ses enfants en Suisse, d'ailleurs, mais il a les mêmes opinions pour la France, à propos des réformes fiscales, hein, qui interviennent, et on est en train d'établir les premiers impôts sur le revenu, et ça les ferait beaucoup, et puis aussi les lois concernant le service militaire. Les jeunes, alors d'abord, un de ses fils, Charles, s'engage, hein, dans la garde nationale en 1870. Il est blessé et il ne pourra pas revenir au front ensuite.
Il est blessé au talon.
Une blessure légère.
Qui l'a gêné.
Et puis, ses petits-fils, que ce soit du côté suisse ou du côté français, le fils aîné d'Alfred de Luz, qui s'appelait Georges, ses petits-fils sont concernés par les lois portant instauration du service militaire. Et donc, il essaie de trouver par quels moyens ils pourront être dispensés ou ils pourront être mis à l'abri de cette obligation.
On pourrait revenir sur tel ou tel point. Là, on a fait ce qu'on était convenu de faire, d'ailleurs, un balayage un peu rapide, mais il faut donner la parole au public pour les questions. Il y a à la fin du livre, alors ça, c'est très intéressant aussi, un choix de lettres. Oui. Et comment les avez-vous choisis, ces lettres, dans le millier de lettres dont vous avez parlé?
Alors, j'en ai retenu 10, effectivement, et ça n'est pas beaucoup. Après beaucoup d'hésitations, beaucoup de réflexions, je les ai retenues soit qu'elles évoquent des moments importants, hein, de la vie d'Alfred de Luz, par exemple le mariage de son fils aîné, de son second fils Alfred avec Sophie Marchand. Je les ai retenus aussi parce que elle me paraissait bien retracée ou bien restituée le caractère et la personnalité du personnage
et la plume.
Voilà, mais alors ça les lettres sont Alfred de Luz disait à sa belle-fille Élise, c'est la Gazette. Hein, c'est la Gazette, c'est-à-dire que tout est mêlé. Il y a des considérations politiques, il y a des considérations économiques, sociales, et puis il y a des nouvelles, hein, des petites nouvelles brèves de la vie de Bordeaux. Par exemple, dans une des lettres de 1870-71, et à propos des fameux bals et dîners qui précèdent le carême, il raconte qu'une de ses connaissances, qui était administrateur des chemins de fer du Midi, a fait un dîner très copieux, qu'il a couronné par 12 crêpes, et il en est mort. Hein, il est mort d'apoplexie, et il dit, eh bien voilà, ça a donné l'occasion à ses parents de mettre un crêpe à leur chapeau. Hein, voilà. Donc il est.
Ça, c'est un des traits constants de cette correspondance.
Oui, je trouve qu'il est plein d'humour.
Il est plein d'humour. Et alors, vous, quand même, vous avez parlé de l'objectivité inaccessible, d'ailleurs, du travail historique. Mais alors, ces lettres, elles sont commentées. Vous ajoutez quelques lignes en bas. Et par exemple, quand il annonce à sa belle-fille ou à ses enfants là, qu'il a été fait baron par le grand-duc
de Hesse.
Ouais. N'est-ce pas ? Alors bon, il expliquait ça, c'est assez développé comme explication. Et l'historienne dit, cette modestie paraît un peu feinte, n'est-ce pas ?
Bien sûr, parce que il est ravi. Il est ravi de cette distinction qui lui a été accordée parce qu'il a été consul de Hesse à Bordeaux pendant plus de 20 ans, hein, et donc il trouve que c'est un hommage qui est rendu à ses bons services consulaires. Il est tout à fait satisfait parce que le parchemin précise que ce titre est transmissible à ses descendants, hommes et femmes. Hein, hommes et femmes, donc il y a des barons et des baronnes de Luz encore à l'heure actuelle. Mais il recommande, et c'est aussi tout à fait typique hein, de son éducation, il recommande à ses enfants de Suisse de ne pas utiliser ce titre en Suisse. En Suisse, il n'y a pas d'ailleurs de titre de noblesse, ça n'existe pas. Il leur dit, vous l'utiliserez dans les affaires, en particulier pour la clientèle allemande, pour la clientèle polonaise, pour la clientèle russe, etc. Et donc, on voit là encore qu'il est capable, bon, de oui, il a un esprit pragmatique.
Ah oui, hein,
il comprend. On lui fait savoir depuis Francfort, ses cousins Bettmann lui font savoir depuis Francfort qu'il serait bon qu'il manifeste ses remerciements, sa reconnaissance au grand-duc, et il envoie par le chemin de fer. Il envoie par le chemin de fer au grand-duc et à la grande-duchesse de Hesse des chapons de rivière truffés. Hein, donc on se demande quand même, les chapons partant de Bordeaux et arrivant à Darmstadt, on se demande dans quel état.
Dans quel état. On peut juste dire un dernier mot, parce qu'on a un peu parlé quand même de rivière. C'était un petit monde. Il y a la ferme, l'étable, les vaches, les ruches, les chapons.
Oui. Rivière est supposée à la fois bon, servir à recevoir et à impressionner la clientèle étrangère, en particulier la clientèle autrichienne et la clientèle russe. Mais Rivière est aussi supposée servir à l'entretien et à la nourriture de la famille. Hein, d'où un potager, une cressonnière, une ferme d'ailleurs avec des vaches, et on traite les vaches bien sûr, des chevaux pour pouvoir atteler à tous les équipages de la famille, un rucher pour fabriquer du miel et... Alfred de Luz, alors tous les matins, il dit ça aussi dans sa lettre Emploi du temps, tous les matins reçoit ceux que ses fils appellent ses ministres, c'est-à-dire le cocher, le jardinier, le fermier, à qui il donne ses ordres pour la journée en leur disant, eh bien aujourd'hui, il faudra tant de miel, tant de poulet, etc. Voilà. Et puis même on revend. Si besoin est, on revend à l'extérieur l'excédent de produits. Hein, l'excédent de produits, le cresson en particulier de rivière. Mon aïeul Alfred de Luz écrit à son frère Charles qui était en voyage, il lui écrit, écoute, reviens à Bordeaux le plus vite possible, sois là dimanche, il faut que tu vendes le cresson à la place de papa, sinon il va encore me passer un savon.
Voilà. Alors, il a, ce sera le dernier mot, il a un jardinier, un cocher, un fermier, enfin tout ça. Mais quand il écrit à son fils en Suisse, ou à Élise, je ne sais plus, il leur dit pas de cocher et de jardinier. Un seul suffira. Il faut faire des économies.
Voilà, vous avez une propriété de telle importance, de tant d'hectares, pas de personnel inutile, par ce personnel inutile.
Merci, c'est
merci
vrai.
Beaucoup. Merci beaucoup.